Parabolique.
Parabolique.
Parabolique. Le magazine des églises.
Bonjour et bienvenue à tous à l'écoute de Parabolique. Christophe Dubois aux commandes de l'émission de ce jour, entièrement consacrée à la vieillesse. Une vieillesse qui ne rime pas forcément avec IMS, comme vous pourrez l'entendre.
C'est aussi notre travail à Prosenectute, c'est le travail de la commission, c'est le travail des divers acteurs d'essayer de sensibiliser la population à cette nouvelle réalité de demain qui finalement sera une société de longue vie avec une recomposition finalement des rapports entre les générations et ce qui amènera forcément des nouvelles réponses. Et les réponses, je crois qu'elles ne peuvent pas venir que d'un endroit ou que d'un acteur, mais elles doivent être vraiment issues d'un mouvement général de réflexion pour qu'elles répondent aux besoins des personnes elles-mêmes.
Quelle place pour les vieux ? Il y a quelques jours, le CIP de Tramelan accueillait un apéricip, c'est-à-dire un débat à l'heure de l'apéritif avec un titre pour le moins provocateur. Ce premier apéricip de l'année a réuni toute une série d'intervenants qui se sont exprimés sur la place des personnes âgées dans notre société d'aujourd'hui et de demain, à commencer par le conseiller d'État Philippe Pernoud, directeur de la Santé publique.
Parabolique.
Comment est-ce qu'on va pouvoir financer nos assurances sociales d'ici 20-30 ans avec la question de la démographie? C'est un vrai problème, c'est un vrai sujet. Et quand je vois la discussion comme elle fonctionne au niveau où suis-je, je me dis, mais est-ce qu'on est vraiment prêt au niveau des politiques en général à comprendre ce qui se passe vraiment quand on dit qu'il y a une augmentation démographique? Moi, je dis non, on n'est encore pas prêt. On n'a encore pas réalisé ce qui nous arrivait. Quand on voit le nombre de proportions de gens qui travaillent par rapport aux gens qui sont à la retraite, comment est-ce qu'on finance ça? Il n'y a pas que le moteur financier qui joue un rôle, mais ça joue certainement un rôle. Sur un budget de 2,2 milliards, j'ai 400 millions qui partent dans la politique du troisième âge. Sachant que les personnes d'un certain âge veulent de plus en plus rester à domicile, autonomes, qu'est-ce qu'on peut leur donner aussi pour qu'elles aient des logements adaptés? Il y a des associations au niveau suisse qui font beaucoup de promotions pour lancer ce genre de choses. Donc on est dans un champ de tension où d'un côté il y a les finances, mais il n'y a pas que les finances qui peuvent résoudre les problèmes que les personnes âgées ont.
Que peuvent faire les communes? Que doivent faire les communes? Dans quelle direction est-ce qu'on va pour justement permettre aux personnes âgées qui habitent dans ces communes d'y rester et de s'y sentir bien?
Effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire M. Pernoud, je commencerai par dire que, effectivement, le canton fixe le cadre. Je crois que c'est toujours le message qui nous a été transmis. Le canton fixe le cadre et c'est aux communes, finalement, qu'incombe d'y mettre quelque chose dedans. On entend qu'il n'y a pas une seule réponse, finalement, à la problématique troisième âge ou quatrième âge, mais il y a certainement une multitude de choses qu'on peut mettre ensemble, finalement. Et ça, c'est un des travaux de la commission aussi politique troisième âge, je dirais au niveau du Jura bernois, c'est d'essayer de faire travailler toutes les institutions en réseau, afin, en ayant toujours aussi une vision un petit peu à moyen terme, voire à long terme, hein, je crois que les chiffres sont là. Pour la région, on va passer effectivement de 18 en 2008, hein, 2008-2009, les chiffres 2008-2009, à 27% de la population, ce qui veut dire, en termes de chiffres, environ maintenant, je pense qu'on est à 10 500, 11 000 personnes de 65 ans et plus dans le Jura bernois, on va passer à 14 15 000 en 2030-2040. Donc c'est 4 500, 5 000 personnes supplémentaires qui se retrouveront finalement en dessus du seuil d'AVS. Hein. Donc ça pose, entre guillemets, pas mal de questions. Et puis, je pense qu'on doit anticiper. Il faut être proactif. Ça veut dire que maintenant, il faut réfléchir à ce qui sera dans 5 ans, dans 10 ans. Et je dirais là, encore une fois, c'est actuellement, par rapport à la politique, c'est très difficile, puisqu'on peut avoir une vision à moyen terme, voire à long terme, mais on voit que des décisions, finalement, politiques, financières et autres, peuvent avoir une incidence très rapide sur ce qu'on pense, finalement. L'idéal, ce serait d'être actif, ça veut dire de pouvoir étudier les choses et proposer certaines choses, mais maintenant on doit être plutôt réactif, et ce qui est dommage en termes de politique troisième âge.
C'était Pascal Bally, président de la commission politique du troisième âge du Jura bernois.
Parabolique.
C'est un fait, la population âgée, dite du troisième, voire même du quatrième âge, va sensiblement augmenter d'ici 2030 dans notre région également. Comment allons-nous faire face à cette évolution démographique? Oui, quelle place pour les vieux? Pour répondre à cette question, un brin irrévérencieuse, le dernier apéricip a réuni une riche palette d'intervenants autour du rédacteur en chef du journal du Jura. Nous livrons ici quelques reflets de ce débat, auquel a participé entre autres Muriel Christ-Marchand de Prosenectute, arc jurassien.
Je pense qu'il n'y a pas une politique du troisième âge, mais des réponses et des politiques qui doivent se décliner au niveau local, au niveau régional et bien sûr ensuite au niveau des échelons cantonaux et de la Confédération. Dans le cadre de Procénectoutais, on intervient sur mandat de la Confédération avec pour mission et pour objectif de maintenir et de préserver la qualité de vie des personnes âgées jusqu'à un âge avancé. Puis on a finalement différents domaines dans lesquels on peut intervenir. On offre à la population âgée toute une palette d'offres et de services. Et toutes ces différentes pistes permettent finalement de mettre en mouvement les aînés eux-mêmes, de valoriser leurs compétences, de mettre en évidence aussi la richesse de leur parcours de vie et de rendre visible cette génération qui doit faire partie de la société à part entière. Et je crois que c'est un point extrêmement important, c'est de ne pas être dans des logiques qui jouent finalement une génération contre l'autre, mais de travailler dans des logiques qui soient plurigénérationnelles, qui intègrent les aînés à la société et qui prennent compte finalement de la diversité. Parce que lorsque l'on parle des personnes âgées, ça recouvre des tranches d'âge avec aussi des besoins qui sont différents. Et les politiques qui doivent être développées ne seront pas les mêmes pour un jeune retraité qui est encore en pleine possession de ses moyens, parfaitement intégré dans la société, et une personne plus âgée qui est peut-être en perte d'autonomie, qui aura besoin de davantage de soutien pour pouvoir garder son autonomie et sa dignité.
Jean-Daniel Rengli, on a dit, vous êtes directeur du Home La Colline. Est-ce que c'est un critère déterminant, la perte d'autonomie pour une personne pour entrer en EMS? Une des volontés politiques partagées pratiquement à tous les niveaux, c'est de maintenir les gens dans leur environnement, à domicile, de pouvoir vivre le plus longtemps chez eux, mais aussi bien chez eux, hein, dans de bonnes conditions. Mais il y a quand même des besoins, puisque votre home, par exemple, va s'agrandir. Alors, je reviens à ma question. Est-ce que c'est lié à la perte d'autonomie de la part des personnes âgées?
L'IMS, quel que soit l'IMS, c'est un lieu de vie en priorité. C'est vrai qu'on y prodigue des soins de base, des soins techniques, mais c'est un lieu de vie, un lieu d'accompagnement. Je suis le premier à dire aux familles qui viennent nous rencontrer, parce qu'une entrée dans une institution se prépare, je suis le premier à dire, mais est-ce que vous avez vraiment, pour votre proche, pour votre parent, utilisé tout ce qu'il y a de possible avant de rentrer dans l'institution? Je suis d'avis que de vivre à la maison, c'est vraiment une valeur existentielle. Et quand on liste avec les familles tout ce qui est possible de faire avant de venir dans une institution, on se rend compte qu'on peut encore faire un petit bout. Et j'aimerais parler du réseau dans le cadre de la famille, mais c'est clair qu'il faut aussi faire attention. Les familles peuvent se fatiguer. Lorsque les actes dans la vie quotidienne se péjorent, on peut faire appel à l'aide et aux soins à domicile. On peut faire appel aux foyers de jour qui permettent de maintenir les acquis. On peut faire appel aussi à la livraison de repas. Procénectout organise, je crois, des visites à domicile. Il y a aussi les aînés qui peuvent être organisés en club. Il y a les paroisses, il y a les communes. Donc c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses avant de rentrer dans une institution. Et lorsqu'un retour d'hospitalisation n'est plus possible, lorsqu'un maintien à la maison n'est plus possible, par exemple lorsque les soins à domicile nous appellent pour nous dire « on a dépassé nos limites, faites quelque chose s'il vous plaît », alors là c'est vraiment la notion d'urgence qui intervient. Et c'est vraiment seulement en cas d'urgence que l'on peut rentrer dans une institution quelle qu'elle soit.
Parabolique. Nous vivons de plus en plus longtemps, du coup, la part de la population âgée augmente. Notre société est-elle prête à affronter cette nouvelle réalité? Comment adapter nos infrastructures à cette évolution démographique? À qui incombe cette tâche? Au pouvoir public, canton et commune, ou d'abord à la société civile? Le dernier apéricipe a réuni à Tramelan plusieurs intervenants autour de ces questions, à commencer par le conseiller d'État Philippe Pernoux, directeur de la santé publique, questionné ici par Stéphane Devaux, rédacteur en chef du Journal du Jura.
Étant donné la démographie, le nombre de personnes à soigner d'ici quelques années, il nous manque du personnel. Et ça, c'est un problème que j'ai avec les hôpitaux et avec les homes, enfin, pas un problème, mais un problème conjoint, de dire qu'est-ce qu'on aura comme personnel soignant d'ici 20 ans pour s'occuper de toutes ces personnes âgées qui auront besoin de soins. Et là, on peut très bien voir qu'il y aura une pénurie de soignants si on ne fait rien. C'est pour ça que dans le canton de Berne, on a lancé aussi avec la nouvelle loi sur les soins hospitaliers l'obligation de former dans les institutions, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des homes, y compris les soins à domicile, pour qu'on ait suffisamment de personnel dans quelques années. J'ai essayé avec tous les hôpitaux dans le canton de Berne de dire « vous mettez en place des centres de gériatrie ». Parce qu'il nous faudra ces sortes de compétences, ces compétences médicales pour la médecine du troisième âge, c'est pas la médecine d'adulte, il y a une différence. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il nous manque des gériatres en Suisse. Donc c'est pas seulement un problème du Jura bernois, du canton, mais c'est un problème au niveau suisse. Et il faut une formation de gériatres. Donc c'est assez vaste comme complexité. Là où le canton peut prendre ses responsabilités, on le fait. Et là où on doit partager les responsabilités, mais dans le sens de donner les conditions cadres pour créer un stimuli. Et je crois que l'avantage de ces rapports ici, c'est un espèce de stimulus dans les régions, comme le débat d'aujourd'hui. J'espère que chacun rentre chez lui en disant « Tiens, c'est vrai, dans ma commune, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que d'ici 20 ans, on ait des conditions de vie qui plaisent à des personnes âgées pour rester à domicile ?» C'est des questions qui peuvent se poser. Est-ce que je prends contact avec une association qui construit des logements adaptés? Est-ce que je prends contact avec quelqu'un qui vérifie l'urbanisme, que j'ai des trottoirs adaptés pour aller d'un endroit à l'autre? Je crois qu'il faut pouvoir s'adapter à ses besoins, et c'est pas seulement depuis le haut que ça doit venir, hein, c'est que depuis la base, ils viennent ces stimulations, et je crois que c'est dans cette réflexion qu'il nous faut travailler ensemble.
Philippe Pernoud, s'il y avait une priorité à laquelle vous allez absolument tenir, quoi qu'il arrive du point de vue financier, dans le domaine de la politique tout radiément, ce serait quoi?
Pour le point de vue financier, je ne prends pas de risque aujourd'hui, alors. Ça, c'est sûr. Par contre, moi, ce que je souhaite, c'est qu'après cette séance aujourd'hui d'appel ici, il y ait un élan dans la région de se dire, oui, il faut que dans nos communes, on se pose la question, qu'est-ce qu'on aurait besoin, qu'il y ait des groupes de discussion qui se mettent ensemble avec les partenaires, que ce soit communes, cantons et toutes les organisations non gouvernementales. Procénectut, moi, je les rencontre régulièrement au niveau cantonal. Ça, c'est très important. On a lancé des projets ensemble où j'ai soutenu un tout petit peu, financièrement d'ailleurs aussi, pour qu'on ait des programmes. Je crois que c'est des programmes d'impulsion. Je crois que c'est important. Dans ces politiques. C'est une préoccupation qui doit être sur le long terme, ces politiques du troisième âge, avec les différents partenaires que nous avons.
C'était donc quelques reflets du dernier apéricipe à propos de la place des personnes âgées dans notre société. On se retrouve la semaine prochaine pour célébrer avec vous les 30 ans de SOS Future Maman, ce grand mouvement d'amitié offrant aux futures mamans en difficulté une aide efficace, discrète et gratuite. En attendant, sachez que Parabolique, c'est tous les dimanches matins à 10h30 et les mercredis en rediffusion à 19h sur les ondes de Canal 3. Et en tout temps pour réentendre nos émissions, rendez-vous sur canal3.ch ou parabolique au pluriel.ch. Excellente semaine à tous et à toutes. Au revoir et à très bientôt.